Pierre, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La France a accueilli du 4 au 5 octobre 2024 le 19e sommet international de la francophonie placé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Au regard du thème retenu pour ce 19e sommet, la question de la jeunesse francophone et l'emploi a constitué des enjeux majeurs qui ont marqué ces sommets. Il faut une volonté de créer des solutions concrètes tant au sein de l'Organisation internationale de la francophonie OIF que dans les États membres pour offrir à la jeunesse des opportunités d'insertion professionnelle en langue française. Un autre enjeu est celui des nouvelles adhésions des pays observateurs tels que l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse et une province du Canada, la Polynésie française, la SAR également, qui est une province de l'Allemagne, mais aussi des pays qui ont vu leur statut évoluer pour devenir membres de plein droit, à savoir le Ghana et également à savoir le Ghana. Il est aussi question du multipartisme, de la gestion des crises, notamment sur le rôle que devrait jouer l'OIF dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. Et cependant, certaines opinions s'interrogent sur le rôle que peut jouer réellement l'OIF dans la gestion des crises au sein de l'espace francophone, mais aussi l'apport de la langue française face aux défis de développement auxquels sont confrontés certains de ses membres. À ce jour, l'OIF compte 93 États, dont 56 membres, 5 membres associés, 32 observateurs et plus de 300 de locuteurs. Comment commentez-vous cette actualité? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous aussi écrire à l'adresse pi@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9 7 6 80 79. Pierre Dessinois est à la mise en œuvre de ce magazine. Je lui fais à Bongonda sur la réalisation et la coordination. Au micro, c'est Marcel Ngomombala. Toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen Parole aux auditeurs aujourd'hui. Nous parlons du 19e sommet de international de la francophonie qui s'est tenu en France du 4 au 5 octobre 2024, ce qui a été placé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Pour commenter ces sujets, nous avons en ligne le professeur Moïla Tchiembe, expert en relations internationales et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla Tchiembe, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation pour commenter ces sujets par rapport à ce 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en France du 4 au 5 octobre 2024. Et parmi les enjeux qui ont marqué ces sommets, il y avait la question de la jeunesse francophone et de l'emploi. Il y avait également de nouvelles adhésions des pays observateurs tels que l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse, la Polynésie française, également la SAR, mais aussi des pays qui ont vu leur statut évoluer pour devenir des membres de plein droit, à savoir le Ghana et le Chypre. Il est également question du multipartisme et de la gestion des crises, notamment sur le rôle que devrait jouer l'OIF dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. Alors, professeur, selon vous, qu'est-ce qu'on peut d'abord retenir de ce sommet, le 19e, du genre de la francophonie qui a été placé sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français »
Ben, disons que il y a bien longtemps que la France n'avait pas accueilli le sommet de la francophonie, près de 30 ans, si je ne me trompe pas, et les critiques, ceux qui regardent depuis bien longtemps l'évolution de l'Agence de coopération culturelle et technique de la CPT à la création de l'OIF, avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies de Boutros Ghali, on s'est toujours intéressé sur quelle est la capacité ou la vision de la France à la reconnaissance de la francophonie et qu'est-ce que la France peut faire. Alors, ce sommet, le 19e, est arrivé comme un pot de chagrin après que vous tout ce qui concerne du décalage ou des problèmes que la France a, notamment dans l'Afrique du Sahel, ce décrochage. Et les gens se sont demandé, mais est-ce que la France a encore une place à jouer en Afrique? Or, la francophonie, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas une création coloniale de la France, à la différence du Commonwealth. La francophonie a été créée, si ses fondateurs, c'est le président sénégalais Senghor, Amani Diori du Mali, et le président Bourguiba de Tunisie. Voilà les gens qui en avaient pris l'initiative. La France s'était toujours dérobée avec l'idée que si on dit que la France a créé la francophonie, ce serait le néocolonialisme, mais j'en pense le meilleur. Donc la France s'est mise à côté de la francophonie jusqu'il y a sous peu, indépendamment du fait qu'on est passé de l'Agence de coopération culturelle et technique à l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, l'enjeu du sommet, comme vous l'avez indiqué, jeunesse emploi, nouveaux États qui adhèrent et qu'est-ce que l'OIF peut faire face aux crises de l'espace francophone. Évidemment, les enjeux sont très importants parce que ce sont des problèmes d'aujourd'hui. La difficulté majeure est qu'il n'y a pas une politique de la francophonie en matière de jeunesse et de l'emploi. Ce sont des vœux pieux qui ont été exprimés au fil des temps en essayant de colmater les brèches ça et là, mais il n'existe pas une politique réelle de la francophonie pour mobiliser la jeunesse de l'espace francophone, notamment la relation entre la jeunesse et l'emploi. Vous savez, chers messieurs, que l'emploi est créé par les entreprises. Certes, on peut dire que les États peuvent en créer dans leurs administrations, mais le foyer, le cœur central de la francophonie, c'est l'Afrique, indépendamment de ce que les gens peuvent raconter. Moi, j'ai publié il y a quelques années un livre intitulé « Francophonie et géopolitique africaine » pour fustiger d'abord la capitulation de la France qui ne s'occupe pas de l'espèce francophone et ensuite pour dire qu'il faut une relation nouvelle entre cet espace qui est en train de se forger, la jeunesse qui prend le relais, parce que si les anciens que je viens de citer ont pris l'initiative de créer l'Agence de coopération technique, ben c'est la jeunesse qui devrait continuer le même élan. Or, il n'y a jamais eu une politique de la francophonie sur la jeunesse et sur l'emploi qui reste en fait non pas des politiques d'une organisation internationale, mais des politiques des États et essentiellement les États et les entreprises.
Alors, professeur, justement, professeur, s'il vous plaît. Parce que justement, par rapport à ce thème qui est créé, innover et entreprendre en français, et du fait de cet enjeu important dont vous êtes en train de parler de la jeunesse francophone et l'emploi, il y a eu, en tout cas, lors de discussions avec de jeunes présents à ce sommet, il a été question d'avoir cette volonté de créer des solutions concrètes tant au sein de l'Organisation internationale de la francophonie que dans les États membres pour offrir à la jeunesse des opportunités d'insertion professionnelle en langue française. Est-ce que vous pensez que c'est un vœu pieux ou il faut absolument qu'il y ait cette volonté?
Ben, évidemment, dans les temps que nous vivons, l'emploi pour les jeunes est capital. Les jeunes qui terminent les études, qui doivent s'installer dans la vie, ont besoin d'emploi. Mais qui crée l'emploi? Je disais tout à l'heure que l'emploi était toujours ou souvent créé par l'État, avec l'administration, et essentiellement par les entreprises. Alors, qu'une conscience ait été prise au niveau de l'OIF pour associer les jeunes de l'espace francophone, prendre en compte leur cri, c'est-à-dire leur besoin, après les études, de chercher l'emploi, c'est tout à fait honorable. De ce point de vue, la francophonie s'inscrit dans l'heure du temps. Mais il faut aller au fond. Qui est-ce qui crée les emplois? Bien sûr, les États africains ou les États francophones peuvent le faire. En ont-ils les moyens? Si on regarde la proportion formation des jeunes ou les jeunes formés, diplômés et la possibilité d'avoir de l'emploi, le chômage est cruel dans l'ensemble de l'espace francophone. Donc, par conséquent, avoir mis le doigt là où ça fait mal, c'est très bien. C'est l'avenir du monde, si la francophonie veut mobiliser les jeunes et leur donner une perspective, voilà une perspective jeunesse et emploi. Encore faut-il mobiliser les États, mobiliser les entreprises surtout, parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi, alors par les formations adaptées, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire l'emploi, l'emploi. Quel type d'emploi qui exige telle compétence, quelle formation? Or, à ces questions-là, nombre de pays, notamment les pays de l'espace francophone africain, n'ont pas encore répondu à la question de la corrélation entre les formations universitaires et les besoins d'entreprises en matière de création d'emplois. Alors, pour trouver cette adéquation, bien entendu, il faut des politiques nouvelles en termes de formation et le lien avec l'école et l'entreprise, ce qui n'est pas encore fait. Mais ce n'est jamais trop tard pour mieux faire.
Bon, ce n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, il y a un autre enjeu également qui a marqué ce 19e sommet de la francophonie, c'est des nouvelles adhésions des pays observateurs tels que l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse, la Polynésie française, la SAR, mais aussi des pays qui ont vu leur statut évoluer pour devenir membres de plein droit, à savoir le Ghana et le Chypre. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui dire que cela témoigne d'une certaine attraction, c'est-à-dire que l'espace... Comment je peux dire ça? Il y a une certaine attraction de l'espace francophone qui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres pays qui s'intéressent à cette organisation internationale de la francophonie.
Évidemment, c'est un démenti médiatique. Parce que si vous écoutez les médias du monde entier, tout le monde parle du déclin de la France et du déclin de l'espace francophone. Voire de nouveaux États. Notamment des pays qui, à l'origine, ne sont pas des pays de la langue française comme le Ghana, la Nouvelle-Écosse, décider d'adhérer à l'EIF, ceci montre qu'il y a une certaine attractivité dans le sens que le monde bouge. On a une idée un peu fixe du monde ancien. On peut évidemment toiser là-dessus en disant du bien ou du mal de tel ou tel espace. Et du moment où il y a des nouveaux États, librement, ce sont des États souverains, oui, qui adhèrent à l'espace francophone, c'est la preuve qu'il y a une dynamique, qu'il y a un espoir. Encore faudra-t-il que cet espoir soit une réalité dans le sens des actes, notamment des actes concrets, qui permettent effectivement, notamment la jeunesse, j'insiste, comme vous l'avez bien voulu le relever, le lien entre jeunesse-emploi, jeunesse-formation. Si les jeunes, l'espace francophone, croient ou croyaient dans leur espace francophone, bien sûr, ça pousserait les États, même ceux qui ne sont pas dedans, à adhérer, et ceux qui sont dedans, de faire un effort. Dois-je rappeler ici que même dans des pays comme la République démocratique du Congo, où le français est la langue officielle, aller dans nos universités, dans nos écoles, et ceux qui en parlent, ils en parlent très mal. Il faut, cher monsieur, passer dans nos universités, lire une page ou un paragraphe d'un texte de mémoire rédigé par nos étudiants ou une dissertation, pour ceux qui ont connu la langue française et qui l'ont adhéré, admiré, et qui l'ont utilisé comme langue de travail. C'est à pleurer. Donc il y a ce décalage, bien sûr. Les États se réunissent, évidemment, on loue la francophonie, mais la réalité de la connaissance de la langue française, sans compter la relation, la compétition entre le français, l'anglais et d'autres langues encore dans la compétition du savoir mondial, qui est un autre aspect, mais il n'y a pas de vitalité de la langue française dans nos cycles d'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Ça, il faut le dire aussi. Parce qu'en ce moment-là, si on continue à claironner qu'on est dans l'espace francophone, alors que nos étudiants, nos jeunes, parlent moins la langue française, qui est la langue officielle, c'est-à-dire la langue de l'enseignement et la langue de l'administration, le drame est tel que on a des jeunes qui finissent l'université, qui sont diplômés, mais qui ne peuvent pas rédiger de moindre texte. Imaginez-vous un jeune magistrat ou un jeune avocat qui vient plaider une cause devant un tribunal où le procès est en français. Écoutez ce qui se dit dans le plaidoire ici. C'est à pleurer. Donc il y a cet aspect-là, mon Dieu, dont on ne parle pas souvent, mais pour nous qui sommes enseignants et qui voyons la misère de la langue française, notamment dans l'enseignement universitaire, bah écoutez, chers messieurs, mais il y a de quoi fouetter un chat.
Voilà, professeur, il y a des auditeurs qui aimeraient déjà intervenir, mais avant de leur accorder la parole rapidement, si vous pouvez faire un commentaire par rapport à notre enjeu de ce 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en France du 4 au 5 octobre 2024, ici, le multipartisme et la gestion des crises, notamment sur le rôle que devrait jouer l'OIF et dans la gestion des crises qui touchent l'espace francophone. Un commentaire rapidement là-dessus, et puis on va ouvrir le standard pour écouter les auditeurs.
Évidemment, il y a pas mal de conflits dans l'espace francophone, notamment en Afrique, parce que c'est le cœur de la francophonie. Évidemment, l'Organisation internationale de la francophonie, comme organisation internationale, est pour le dialogue, pour la coopération entre les États. Lorsqu'un conflit surgit, quelque part, il y a des options. Soit on fait la guerre, soit on négocie. Mais l'histoire a montré, chers messieurs, que même s'il y avait une victoire par la force, et si les causes du conflit n'ont pas été éradiquées par le dialogue, parce que soit le dialogue commence avant le conflit, mais quand le conflit dépasse l'entendement et débouche sur une guerre, pour sortir de la guerre, on a besoin de la négociation du dialogue. Donc, que la francophonie prête sa médiation ou incite les États à régler pacifiquement leurs différends, c'est le cœur même de la Charte des Nations Unies. Lorsque les différends surgissent entre les États doivent régler leurs différends par les moyens pacifiques.
Et ça, c'est très important. C'est la Charte des Nations Unies. C'est très important. Professeur, on revient à vous, on vous garde encore en ligne. On va fouiller les standards pour écouter les deux premiers auditeurs qui aimeraient déjà intervenir. Maître Patrick Audien, qui nous appelle depuis le Lubumbashi, et Peter Maboudike à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du 19e sommet international de la francophonie qui s'est tenu en France du 4 au 5 octobre 2024 et qui a été placé sous le thème créer, innover et entreprendre en français. Si vous voulez intervenir, venir composer zone 9 7 5 6 80 59.
Allô,
c'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais bien ravi par rapport
je à suis ça, vraiment je... ravi par la pertinence de...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Maître Patrick Audia, vous avez la parole, on vous écoute.
Bonjour Marcel, bonjour au professeur Moïla Tiembe, que j'ai l'honneur, et tous les auditeurs de la radio Capi. Merci de m'associer à ce niveau du débat. Je voudrais d'emblée féliciter le professeur pour son analyse, et aussi en ajoutant quelques éléments également que nous en avons marre. Nous, jeunes Africains, professeur l'a si bien dit ici au Midali Milieu Universitaire, lorsqu'on parle de la promotion culturelle de la langue française, eh bien, qui d'autre nous dira le contraire, si ce n'est que... si ce ne sont que des enseignants, comme le professeur est en train de le dire également. Donc, sur le plan culturel, il est bien beau de féliciter la France pour sa diplomatie, tout ce qui va avec, mais sur le plan culturel, rien n'est à démontrer également qu'à ces jours, il ne suffit pas tout simplement de parler français pour obtenir un emploi digne de ce nom, mais il faut aller au-delà. Aujourd'hui, les marchés économiques également, les conventions économiques, tablent sur la langue chinoise également, le mandarin, pourquoi pas également l'anglais, qui sont des langues. Une fois que vous les maîtrisez également, vous pouvez avoir un atout sur le plan de l'employabilité des jeunes également. Au jour d'aujourd'hui, il ne suffit pas de parler français. Toujours est-il nécessaire également de prouver que même le français dont on essaie de promouvoir la culture également, on en a la maîtrise. Tel n'est pas le cas. Je pense que 3 sur 5 jeunes au jour d'aujourd'hui des licenciés, que ce soit en économie, en droit et autres, ne sont pas à mesure de bien écrire le français. Mieux encore, de mieux parler ou s'exprimer en français également. Donc, toutes ces difficultés, je pense que sur le plan culturel, la France, bien qu'il y ait des membres également qui ont adhéré, observateurs soit-il également, mais ces membres ne sont pas je peux dire, ne font pas preuve que la culture de la langue française bat son record ou est en train d'être promis en Afrique. Ce qui est le contraire également. Sur le plan politique également, ou public culturel, je peux dire également, lorsque nous prenons l'aspect la région ouest-africaine aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez des pays qui ont changé quasiment la langue française. Qu'est-ce que nous voulons dire également de la promotion? Si les pays sont en train de perdre également les éléments qui parlent cette langue française également, est-ce que peut-on parler de la culture? J'ai dit et je dirais absolument non également. L'ouest africain est en train de perdre cette langue en changeant également, en prenant des langues, en promouvant des langues local également ou national également. Ça, c'est sur le plan culturel, pour démontrer qu'il n'y a rien. Sur le plan culturel, a dit qu'il y a eu la promotion, la France est en train d'échouer. Sur le plan politique, il en est également, la France-Afrique et d'autres également, même si il y a des pouvoirs distingués, la France-Afrique et l'OIF, mais il y a toujours des similarités entre ces deux organisations également. Et dans la politique de gestion des questions africaines, il y a tout à fait l'échec également qui change, que même Macron est conscient de pouvoir démontrer également. Alors, sur le plan diplomatique, non, ce langage, c'est pas toi des technocrates et des politiques irrésolus. Ils disent aux uns Macron, ils disent aux uns à la RDC, vous avez raison, mais au Rwanda, que vous n'avez pas tort. N'est-ce pas une lâcheté, une lâcheté? C'est vraiment de lâcheté, je dirais. Non, dès lors que
Maître Patrick Odia, mais vous avez suivi, le professeur a insisté là-dessus, il faut éviter d'emblée de mettre une corrélation entre, c'est qu'on parle de relations entre la France et les pays africains, notamment dans le cadre de France-Afrique et de l'UEF, et qui est l'Organisation internationale de la francophonie, et qui est plus basée sur la promotion de la langue française. Il faut déjà éviter de mettre une corrélation là-dessus.
Non, non. Lorsque papa a deux femmes, il utilise la première femme dans d'autres questions et la deuxième femme dans d'autres questions. N'est-ce pas, c'est toujours papa qui dirige la France-Afrique et la francophonie ou l'OIF également. Qui dirige ça? Qui est l'autorité morale
pour le dire également?
C'est
merci.
Tout simplement la France. C'est pour dire... Je voulais citer Marcel.
Allez-y.
Marcel, permettez-moi de citer également.
Allez-y.
Pour dire... Nous demandons même pourquoi le chef de l'État s'était rendu en France. Parce qu'après avoir participé, il a dit que la France a quasiment été hypocrite, publiquement également, mais il décide quasiment de quitter. Nous nous disons qu'il lui avait envoyé d'abord de pouvoir participer à une table dont vous savez la finalité également. Je pense qu'il y a lieu de quitter cette organisation de la francophonie et se prendre en charge et tourner vers d'autres horizons. Pourquoi ne pas aller
voilà.
également
Merci
dans l'espace
Merci beaucoup, Maître Patrick Odia, de vous appeler depuis Lubumbashi. Peter Maboudi, vous êtes en ligne depuis Kinshasa, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les fédérés de Kabil.
On vous écoute.
Merci beaucoup Monsieur Marcel. Je salue l'invité, le professeur Moïla, pour ses commentaires, pour ses analyses, Monsieur Marcel. Pour émettre un point de vue sur la thématique du jour, l'organisation du 19e jeu de la francophonie, du sommet de la francophonie, Monsieur Marcel, moi, ne m'inspire pas grand-chose, partant même du thème « Créer, innover, entreprendre » en français. C'est comme si, M. Marcel, pour entreprendre, il s'agit là d'un domaine d'affaires, il faut nécessairement entreprendre ou créer, innover seulement en français et non dans d'autres langues. Et surtout même quand on a parlé de l'aspect de la création des emplois pour les jeunes, oui, aujourd'hui, il s'observe, M. Marcel, à travers le monde, que tous les États pensent que à résoudre le problème de l'emploi des jeunes sans pour autant penser d'abord à la gouvernance effective des États en question. Comme le professeur l'a dit, la question de l'emploi relève de la politique globale d'un État. Ce n'est pas à l'OIF de venir créer des emplois au sein des États faisant partie ou des États membres pour ses citoyens, non. Il relève de la compétence d'un État. Mais dans le domaine de l'emploi aujourd'hui, M. Marcel, nous qui sommes jeunes, nous sommes butés à plusieurs défis, surtout les défis linguistiques. Parce qu'aujourd'hui, dans le champ de l'emploi, il vous souviendra quand on lance l'offre d'emploi, la maîtrise de la langue française, et on vous dit, au bas même de l'offre, la maîtrise de la langue anglaise serait un atout. Donc aujourd'hui, il y a un challenge, il y a un combat entre l'anglais et le français qui s'observe sur le mode d'emploi, et qui est un défi majeur pour les jeunes. Également, si la résolution des conflits, les crises, tout ça, M. Marcel, avec ce qui se passe nécessairement en Afrique, le sommet devrait inspirer aux dirigeants africains de comprendre que la gestion des crises en Afrique résulte même de la gouvernance des États africains. Non seulement la France qui viendra en Afrique, surtout les pays francophones africains, de venir résoudre les différends, bien que le professeur l'a souligné, le mode de résolution des conflits, des crises en Afrique, n'est pas celui de s'attendre à ce que la France puisse intervenir, mais plutôt de se regarder en face en tant qu'Africain, un continent grand, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique d'abord. Aujourd'hui, quand je parle même de la langue anglaise, M. Marcel, au sein même de l'OIF, la dame rwandaise qui est là au niveau des bureaux d'exécution, mais le Rwanda parle l'anglais, mais comment est-ce que le Rwanda, qui est un pays anglophone, trouve une place au sein de l'OIF? On ne comprend absolument rien. Il est temps que les dirigeants africains francophones, des États francophones, puissent réfléchir. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre ou de créer, d'innover seulement en langue française, non. Mais même dans nos langues, pour en créer, il ne s'agit pas de la langue, mais plutôt de la capacité de réfléchir, de la capacité d'innover individuellement, quelle que soit la langue qu'on doit apprendre. Mais au niveau de notre pays, comme le français est une langue officielle, comme les constats faits par mes prédécesseurs, il s'observe une inadéquation entre le parler et le faire. Aujourd'hui, c'est même même au niveau même des écrits. Les enfants aujourd'hui écrivent très mal français. Et cela relève de quelle? C'est de la gouvernance par rapport à l'éducation. Donc, il est temps que les États membres de l'OIF, surtout les États africains, puissent s'y pencher pour trouver des solutions adéquates par rapport à la langue française et également aussi à la résolution pacifique des conflits.
Voilà, merci beaucoup, Peter Maboudi, d'avoir réagi depuis Kinshasa. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi. Vous avez la parole. On vous écoute.
Bonjour, monsieur Marcel. Hein. Bonjour également à l'invité. Je pense que nous saluons certes donc les sommets, les 19e, n'est-ce pas, en ce qui concerne la francophonie, mais cependant qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi relever, parce que lorsqu'on parle de le problème de l'employabilité ou de l'occupation de jeunes, ça, les chefs de l'État, d'ailleurs, ça entre dans la vision du chef de l'État. Malheureusement, ici, dans notre pays, et cela n'est même pas le cas jusqu'alors, parce qu'il y a des jeunes qui sont tout à fait désœuvrés, et l'employabilité, c'est presque la mer à boire, c'est compliqué. Alors, il y a aussi le problème, quand on parle de multipartisme, moi, je me dis, mais ici, chez nous, le multipartisme, ça ressemble à autre chose, parce que lorsqu'on parle de multipartisme, ici, chez nous, en RDC, c'est tout à fait les régionalismes, les clanismes, les tribalismes, même les des problèmes, donc, qui concernent la famille. Chacun, là où nous allons, nous voyons que quand on parle de pluralité, on parle de multipartisme, ici, chez nous, le concept là est loin d'être compris, parce que là où nous tendons, nous risquons d'avoir 10 000 partis dans un pays, ce qui ne serait pas correct. Et aussi, il y a un autre facteur, lorsqu'on parle de la gestion des crises, moi je me dis que cette question-là, vraiment, c'est tapé à côté, et moi je me dis que les pays occidentaux nous ont faussé compagnie, là je me dis que la francophonie ne nous a pas aidé à ce que nous puissions arriver à trouver des solutions, parce que nous-mêmes, nous sommes en difficulté, on ne résout pas les problèmes. La France qui était censée gagner, faire les garde-fous et même peser de tout son poids n'a rien fait de spécial. Je comprends pourquoi les chefs de l'État pouvaient être lésés et claquer la porte. Et moi, je me dis, non, je pense que il faut assainir à ce moment-là qu'on puisse un peu voir ces choses d'une autre façon pour que notre pays se retrouve, parce que on est dans ces regroupements de la francophonie, mais nous ne faisons rien on ne fait rien de spécial pour la RDC, parce que la guerre continue encore en des familles à l'Est, mais on n'en dit rien, mais on se retrouve dans un regroupement qui ne profite pas. Alors, il faut peut-être résoudre les problèmes autrement pour voir qu'est-ce qu'il faut pour que notre pays se retrouve. Sinon, nous risquons de faire toujours des surplaces. Tout est au point mort, mais je pense que la RDC peut réfléchir autrement pour changer le fusil d'épaule pour que les choses soient bien coordonnées.
Voilà, merci beaucoup, M. Marcel. Merci à vous aussi, Jérémy Mamba, d'avoir réagi depuis le Lubumbashi. Georges Kilangalanga, vous êtes à Kisangani, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur Marcel. Vous m'entendez?
On vous attend très, très bien. Allez-y.
Allô?
On vous entend très bien, Georges Kilangalanga. Allez-y.
Oui. 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 Merci. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi et messieurs les professeurs que je connais bien. Je pense que la francophonie, moi, j'encourage, c'est une bonne organisation. Mais en termes des relations internationales, monsieur Marcel, ce sont les États eux-mêmes qui sont responsable, le premier acteur même des relations internationales. Alors, si aujourd'hui on doit attribuer la faute à la francophonie, je pense que c'est une erreur. La francophonie ne viendra pas développer ces pays si nous-mêmes nous ne sommes pas conséquents. Donc, c'est à nous-mêmes de nous prendre en charge. Et d'abord, par rapport au thème, c'est un thème que moi, j'encourage. Il faut vraiment encourager les efforts de la francophonie. Mais c'est nous-mêmes qui devons nous organiser. Notre pays n'est pas organisé. Notre pays n'est pas organisé. Lorsqu'il s'agit de la paix, la communauté internationale. Lorsqu'il s'agit de n'importe quoi, la communauté internationale. Alors, c'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de l'État? C'est à l'État de s'organiser à tous les niveaux. Et les autres ne sont que des partenaires. La francophonie aujourd'hui, lorsque la francophonie nous donne l'argent, on applaudit. L'argent qu'on détourne de gauche à droite. Et lorsque la francophonie condamne quelque chose d'abord qui est contre la RDC, on dit voilà, ingérence. Je pense que nous devons nous organiser. Les organisations internationales ne peuvent venir qu'en appui aux efforts que nous faisons. Aux efforts. Mais le problème du Rwanda ici, moi j'appuie la position de la France. La France a toujours dit, la France ne cache pas sa position. La France est pour le dialogue. Et c'est ce que la francophonie devrait faire. Mais les efforts de guerre, améliorer les conditions de nos militaires, comment rendre notre armée efficace, c'est de la responsabilité de l'État. C'est notre État qui est irresponsable. C'est notre État qui est irresponsable. Je pense que si on comprend ça, on n'attribuera pas de faute aux organisations internationales comme la francophonie, qui nous aide d'ailleurs. Il y a des opportunités, il y a des étudiants congolais qui ont fait leurs études en France. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples.
Voilà, merci.
Je pense que la francophonie joue son rôle. C'est à l'État congolais de se prendre en charge.
Voilà, merci Georges Kilangalanga depuis Kisangani. Avant de retrouver notre invité pour qu'il puisse réagir à toutes ces réactions, je m'en vais lire sur la page Facebook, page auditeur, ces réactions du pasteur Jérémy, du pasteur, non, cette réaction, attendez, je retourne rapidement. Son nom, c'est de François Okonji. Qui nous écrit ceci depuis Lukasaï. Cette organisation n'apporte pas de soutien à son membre de taille ou influent qui est la RDC face à l'agression extérieure. Je vois la chute de cette organisation dans l'avenir. Voilà, ça c'est François Okonji depuis Kasaï. Notre réaction, c'est Jean-Pierre Matungulu qui nous écrit depuis Kananga. Félicitations à l'OIF pour les efforts dans la promotion de la langue française. Mais comment elle n'arrive pas à trouver une solution dans un conflit qui lie deux pays francophones, le Rwanda et la RDC? Je souhaiterais que notre pays se retire de cette organisation vu que la France elle-même est complice de la guerre et la torture que subit la population congolaise. Voilà, ça c'est l'avis de Jean-Pierre Matungulu depuis la ville de Kananga. Professeur, on revient à vous. Vous avez suivi les commentaires des uns des autres par rapport à ce 19e sommet de la francophonie, notamment par rapport à l'organisation elle-même de la francophonie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ben, écoutez, je suis heureux d'entendre ces points de vue différents, mais qui voient l'essentiel pour les uns des autres. Il faut rappeler, comme l'a dit d'ailleurs les gens qui sont intervenus, les premiers acteurs de tout ce que nous déplorons, ce sont les États. L'OIF, l'Organisation internationale, est créée par les États. Les États lui ont donné des objectifs et lui ont donné des moyens. Donc l'OIF ne peut rien entreprendre qui aille à l'encontre des intérêts des États et des objectifs qui lui ont été assignés. Donc, le discours qui consisterait à fustiger la francophonie comme étant quelque chose qui serait tombé du ciel et qui peut régler n'importe quelle crise ou quel conflit, c'est une vue d'esprit. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, nous assistons à la crise de la diplomatie multilatérale. Regardez les Nations Unies, qui ont la charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, confié au Conseil de sécurité. Les conflits s'exacerbent dans le monde, sans compter le conflit qui oppose, enfin, les conflits en République démocratique du Congo, je ne parle pas de la MONUSCO. L'ONU et le Conseil de sécurité, son organe principal, sont aux abonnés absents. Pourquoi? Ben parce que l'un des États membres, ou les plus grands États membres, c'est-à-dire, ceux qui disposent du droit de veto, ont paralysé l'organe central qui est chargé du maintien de la paix. Alors aujourd'hui, le règlement les différends ne passent plus par les Nations Unies parce que la diplomatie multilatérale, notre sécurité est paralysée. Alors, deuxième élément de cette discussion, il faut pas confondre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la France. La France est un État membre, comme la République démocratique du Congo, comme le Canada, et j'en passe les meilleurs. Donc, s'il y a des griefs adressés au gouvernement français et à sa politique, c'est tout à fait légitime. Mais si vous venez en France un jour, je vous le souhaite vivement, vous verrez que très peu de gens connaissent la francophonie et parlent de la francophonie. Et vous serez même surpris de voir que même dans nos universités, très peu de gens en France connaissent et parlent de la francophonie. Donc, il faut distinguer l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation internationale, et la politique que mène la France dans le monde ou en Afrique, quelle que soit l'opinion qu'on puisse en faire. Après tout, tous ceux qui prennent la parole ici ou ailleurs, il faut aller en France même, voir bien l'opinion des gens est divisée sur tel ou tel aspect de la politique de la France. Alors, la question des règlements de différends, je dois rappeler ici que la charte des Nations Unies est le cœur du nouvel ordre mondial de l'après-guerre de 1945. Et ces instruments de règlement des différends sont à charge des États. Ce sont les États qui doivent utiliser les voies et moyens prévus, la négociation, les bons offices, la conciliation, etc., etc., pour régler leurs différends. Et c'est au niveau des États. Regardez la manière dont les États comprennent même les conflits ou les crises qui les opposent. La République démocratique du Congo a sa grille de lecture des différends qui l'opposent au Rwanda. Le Rwanda a sa propre grille de lecture. Il suffit d'écouter les médias, d'entendre nos dirigeants parler pour s'en rendre compte. Mais justement, c'est parce que les points de vue sont différents qu'il est nécessaire de rechercher la paix par les moyens de négociation, des bons offices, des conciliations et bien d'autres encore. Mais évidemment, là aussi, il y a l'intérêt national, il y a l'opinion nationale de chaque pays qui peut fustiger ou soutenir tel ou tel point de vue. Tout cela est tout à fait possible et l'OIF ne peut rien entreprendre si les États membres, la République démocratique du Congo d'une part, le Rwanda d'autre part, ou ne veulent pas se rencontrer pour régler leurs différends, ou ne veulent pas aborder la crise avec l'idée d'aller vers une sortie commune de cette crise, alors l'OIF peut proposer des négociations, mais si la RDC et le Rwanda n'en veulent pas, ce n'est pas leur faute. Les organisations internationales doivent proposer la médiation. Et si la médiation n'est pas acceptée par les États en crise, l'OIF ne veut pas se substituer aux États souverains. Je dois rappeler que la République démocratique est un État souverain, le Rwanda est un État souverain. Donc les deux pays n'acceptent que ce qu'ils veulent bien accepter.
Mais professeur, et vous l'avez dit,
la
professeur,
de la langue,
vous l'avez dit vous-même, il faut absolument qu'il y ait la diplomatie, il faut absolument qu'il y ait le dialogue. C'est vrai qu'il faut également la volonté des pays concernés dans les conflits. Mais du moment où on n'arrive pas à concilier des pays qui sont dans un conflit, et on se dira finalement quel rôle pourra bien jouer. Parce que lorsqu'on on a parlé parmi les enjeux de ce sommet, il y avait le multipartisme et la gestion des crises au sein même de l'organisation. Alors si déjà pour deux pays comme la RDC et le Rwanda qui font partie de cette organisation, si la diplomatie a arrivé à s'essouffler, même par exemple au sein même de l'OIF qui pense qu'il faut absolument arriver à trouver une solution à un tel conflit, et là, vous pensez pas que vous rejoignez ceux qui pensent que il faut cette organisation ne joue pas absolument son rôle et que la RDC n'a pas intérêt à continuer à demeurer au sein de cette organisation?
Non, ce serait imprudent de jeter le bébé avec l'eau du bain. La francophonie est une organisation comme les Nations Unies et bien d'autres. Son rôle, c'est d'aider les États à régler pacifiquement leurs différends et leur proposer, le cas échéant, si c'est une médiation, le médiateur a une certaine idée de règlement des différends. et proposent cette idée aux partenaires en conflit. Ils prennent ou ils ne prennent pas. S'ils prennent, alors, en ce moment-là, il est possible que le médiateur s'en joigne à eux pour pouvoir expliquer son projet de sortie de crise. C'est ça la réalité. Et l'organisation n'est pas mauvaise ou on ne peut pas jeter au rebut parce que les États, au nom de leurs intérêts nationaux, ne veulent pas négocier pour sortir de la crise. Ben, la question au-delà, cher monsieur, combien cette crise coûte à la République démocratique du Congo? Combien coûte-t-elle au Rwanda? Est-ce que le fait de l'avoir perduré est dans l'intérêt des populations du Congo et du Rwanda? Non. On ne peut pas se payer le luxe de voir des violences, des morts, des blessés, matin et soir. L'armée nationale se bat avec les moyens qui lui sont propres chaque jour. Tous les Congolais le reconnaissent, quelle que soit l'opinion qu'on puisse en avoir. Mais le règlement des différends n'est pas nécessairement lié à notre armée. À supposer, dois-je donner un exemple? Il y a 10 ans, le M23 était battu des armes à la main par les FARDC, aidé par la brigade des Nations Unies. Le M23 était défait et ses dirigeants éparpillés sur les frontières de la République démocratique du Congo. Voilà 10 ans. Le M23 revient. Qu'est-ce que cela veut dire comme leçon de l'histoire? Ça veut dire que même en temps de victoire militaire, si vous ne réglez pas le fond du problème pour lequel tel ou tel individu a pris la force contre son propre pays, nous parlons là des citoyens. Si les citoyens, à tort ou à raison, revendiquent leurs droits, et au lieu de les revendiquer dans la paix, comme le prévoient toutes les lois, imaginez-vous si chaque Congolais qui a de reproches à faire au gouvernement sur tel ou tel intérêt ou tel droit, prenait les armes, le Congo n'existerait pas, aucun pays d'ailleurs. Alors par conséquent, le M23 va être battu depuis 10 ans, il y a 10 ans, plus de 10 ans, est revenu à charge. C'est la preuve que le problème pour lequel ces délinquants armés avaient pris les armes contre leur propre pays n'était pas réglé.
Voilà, professeur, oui.
Même la victoire militaire n'est pas en définitive une solution finale.
Il faut toujours résoudre les causes profondes dans tous les conflits.
Donc il faut rester vigilant.
On revient à vous, professeur, parce que vous avez souhaité aussi faire un commentaire pour ce qui est de l'emploi des jeunes. On revient à vous. Il est temps pour nous de nous tourner un moment vers le standard pour écouter Maître Yves Mouyaya qui est à Kinshasa. Maître Yves Mouyaya, vous avez la parole.
Sur la radio Okapi, je salue le professeur Moïla Tchembe. Déjà, ce que fait le professeur là, c'est parce que pour que nous puissions
Maître Yves, il y a quelques soucis avec votre ligne téléphonique. Essayez de vous déplacer un petit moment. Il y a des soucis là. On n'arrive pas bien à saisir ce que vous dites. J'espère que le temps de vous déplacer, je pense revenir au tout premier. Je pense que l'inspecteur Jacques Befonga est en ligne et puis on pourra revenir à Maître Yves. Le temps de vous déplacer. Inspecteur Jacques Befonga, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je salue d'abord l'invité qui est avec vous là-bas. Et à mon avis, je vois que l'OIT a réussi à jouer un rôle essentiel dans la promotion de la langue française et la coopération entre les pays francophones, tout en lançant plusieurs initiatives pour soutenir l'emploi des jeunes, la paix et le développement durable. Mais toutefois, les résultats varient selon les régions. Et les défis subsistent encore jusqu'à présent, notamment en matière de gestion des crises. On ne sait pas vraiment l'apport de l'OIF lorsqu'il y a des crises. Par exemple, nous parlons ici des problèmes de l'insécurité à l'Est, des crises entre les pays, des Grands Lacs ici. Et aussi à propos des réductions des chômage, hein, des jeunes, vraiment, on ne sent pas l'apport de l'OIF parce qu'il y a beaucoup de projets et beaucoup de choses qui viennent toujours par rapport à d'autres grandes puissances comme l'Amérique, la Russie. Ce sont eux qui dominent à propos des emplois des jeunes dans notre pays. Alors, il y a autre chose par rapport aussi à l'apport Il est essentiel que l'OIF continue à s'adapter et doit adapter ses stratégies en fonction des besoins spécifiques de ses membres, et en particulier ceux en situation de crise et de sous-développement. Voilà un peu ma contribution que j'avais par rapport à ce sujet.
Voilà, merci inspecteur Jabé Funga. Vous avez insisté par rapport à l'emploi pour ce qui est des jeunes. Il faut, et comme on l'a dit, il faut absolument qu'il y ait cette volonté, non au sein de l'EF, mais également au sein des États membres pour trouver des opportunités d'emploi pour les jeunes. Merci inspecteur Jacques Befonga depuis Kisangani. Maître Yves Mouyaya, j'espère que ça va bien marcher. Non, on me fait signe. Qui n'est plus en ligne. Alors, on va chercher notre auditeur qui nous a joint. Il pourra intervenir également. On va lui accorder la parole. Il s'agit de, je retourne rapidement son nom, il s'agit de Yves-Laurent Mamba qui est en ligne. On m'a pas précisé, il appelle d'où, mais voilà, il est en ligne. Yves, vous avez la parole.
Merci beaucoup, c'est Yves-Laurent Mamba, Kinshasa.
Ah, Kinshasa, voilà, on vous écoute.
Merci beaucoup, cher. Le sommet de l'OIF organisé en France, dans c'est une rencontre amicale avec les États, avec les pays membres, c'est très bien. Mais ce que nous avons déploré, c'est l'absence, c'est les non-dits du président Emmanuel Macron, si l'agression le reste. Je pense que vous êtes en train d'évoquer de l'emploi des jeunes au sein de cette organisation, c'est vraiment très important. Mais je pense que la RDC, à un certain moment, devait se mettre autour d'une table et faire d'abord son apport dans cette organisation. Parce que jusque-là, comment expliquer, le Rwanda, c'est un pays membre des Commonwealth. Mais comment on peut donner la présidence de l'OIF à une Rwandaise? Je pense que la RDC, à un certain moment, elle doit évoluer, elle doit faire des titres. Si on se rend compte que dans cette organisation à laquelle nous appartenons et qu'on ne bénéficie, pas aucun intérêt, mais aussi la France qui est complice du Rwanda, bon, il est temps de claquer la porte. Moi, je ne pense pas que l'OIF viendra développer notre pays. Ce sont des organisations internationales qui nous coûtent beaucoup d'argent, beaucoup de contributions. Je pense que la RDC, à son niveau, doit évoluer. Si on se rend compte que non, cette dernière ne nous apporte rien, on peut claquer la porte et on fait autre chose parce que le Congo a beaucoup d'urgence. Je ne vois pas si aujourd'hui on culture, je ne vois pas si on perdrait. Merci beaucoup, bonne journée.
Voilà, merci. D'avoir rejoint le groupe WhatsApp de Paroles aux Auditeurs, continuant à en parler autour de vous. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Avant de retrouver le professeur Moïla Tchiemé, je m'en vais lire cette réaction de la page Facebook. Justement, c'est la réaction de Yves Mouyaya qu'on n'a pas pu avoir tout à l'heure. Il nous écrit ceci, c'est fait à Noy. En 1998, que Jacques Chirac, ancien président français, décida d'une francophonie politique alors que jusque-là l'OIF était culturel, c'est-à-dire un instrument de vulgarisation de la langue française en perte de vitesse sur le chic international face à l'anglais. Depuis lors, la francophonie est utilisée par la France pour assurer son influence politique sur le plan pointer son influence politique, qu'il s'agisse de droits de l'homme ou de la démocratie qu'elle s'est assignée comme objectif. L'OIF est une association des hypocrites, car les pays comme le Congo, Brazza, le Gabon, le Cameroun, pour ne citer que ces trois-là, il n'y a aucune espérance du changement. Depuis plus de 30 ans, et si la RDC continue à être membre dans ces groupes, c'est parce que depuis Mobutu, nous y avons engagé, le pays n'a pas encore retrouvé sa véritable stabilité politique et économique et l'importe d'y aller lentement. L'incident diplomatique créé par le chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi, témoigne la suffisance que cette organisation reste au service des intérêts français, car le Rwanda est actuellement la demande de la France. Bon, voilà, ça c'est une autre réaction de maître Yves Mouyaya depuis Kinshasa. Voilà, il y a beaucoup de réactions, mais on ne pourra pas lire toutes ces réactions. On arrive presque à la fin de ce numéro de Parole aux Auditeurs. Alors là, je reviens à notre invité qui pourra également commenter cette deuxième vague des interventions. Professeur Moïla Tchiemé, vous êtes toujours là?
Oui, je suis là, oui.
Voilà, professeur, vous avez suivi à cette deuxième vague de réactions. Un commentaire également là-dessus.
Je pense qu'il y a une confusion.
Oui.
Nombre de nos compatriotes mélangent la francophonie et la France. Je répète que si vous venez en France, vous ne rencontrerez pas beaucoup de monde qui sache qu'est-ce que c'est que la francophonie. Et en plus, la francophonie politique, à ma connaissance, n'existe que dans les souhaits de demander à ce que la francophonie devienne un objet politique. Mais comme la France elle-même n'a pas créé la francophonie, n'en connaît pas la grammaire, alors on est dans une duplicité. Il y a eu volonté des Africains de créer un club qui s'occuperait des échanges culturels, linguistiques, etc. La France a regardé tout ça avec mépris jusqu'à mort, à la mort du général de Gaulle et ses successeurs. C'est dans les années 80, les années 90, avec l'arrivée au pouvoir de la gauche, qu'on a essayé de comprendre, plus ou moins ce que ça pourrait être dans les discours officiels, dans les réceptions. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe dans le budget de la France, quelles sont les politiques publiques de la France sur la francophonie, sauf tromperie de ma part, il n'y a aucune ligne sur la francophonie et ce que la France veut en faire. J'entends dire oui, la France fait de la francophonie un outil politique. C'est une plaisanterie. Ça se saurait si la France, j'entends francophonie au sens de l'OIF, pas francophonie au sens de la politique d'empire de la France qui n'avait pas besoin de la francophonie hier et qui n'en a pas besoin aujourd'hui. Par conséquent, la politique française, on peut la critiquer, on a raison de le faire, mais n'a rien à voir avec la francophonie. C'est-à-dire que les gens confondent, j'entends parler de France-Afrique, etc. Mais ce n'est pas la francophonie, la France-Afrique.
Voilà,
la
c'était...
France-Afrique, c'est la politique étrangère de la France.
Voilà, c'était
ça n'a rien à voir avec la francophonie.
Voilà, c'était une précision importante, professeur Moïla Tchiembe. Je pense qu'on va s'arrêter par là. On est déjà à la fin de ce magazine. Nous vous disons merci, professeur Moïla Tchiembe. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques des Nations en France. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci de votre invitation, cher monsieur.
Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Dessinois qui est à la mise en onde, à Julie Feza Bongonda qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Gomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.